Ici Moscou, 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 Moscou.
En 1992, un reportage de la télévision russe s'intéresse au jeune adjoint du nouveau maire de Leningrad. Chemise blanche, cheveux clairs, c'est un inconnu.
Vous avez quel âge ?
J'ai 39 ans.
Et quelle est votre situation familiale ?
Je suis marié, j'ai deux filles, une de 6 ans et demi et une de 5 ans et demi.
C'est sans doute la toute première apparition de Vladimir Poutine à la télévision.
Mon directeur de production me dit « Poutine te cherche ». On était en 92.
Le réalisateur, Igor Chatkan, s'en souvient très bien.
J'ai dit « Mais c'est qui ce Poutine ?» Et là, il me répond « Mais si, tu sais bien, Poutine, celui qui travaille avec Sobchak, le maire, eh bien, il te cherche et il veut que tu l'interviewes. »
La mairie de Leningrad comme tremplin pour l'officier du KGB. Vladimir Poutine va donc passer de l'ombre à la lumière.
Tout ce que notre histoire a connu de meilleur, nous le transmettrons à nos descendants.
À l'automne 1990, Vladimir Poutine est fébrile et inquiet. De retour en Union soviétique, l'espion russe cherche à se recycler. Avec la souplesse et la discrétion d'un félin, l'agent Platov se fixe alors un objectif : infiltrer la vie politique de sa ville natale. Dans ce monde soviétique fracassé, dans ce Far West de l'Est, Poutine, que personne n'a vu arriver, va se hisser jusqu'au plus haut sommet de l'État. Mais comment s'y est-il pris ? Eh bien, dans cet épisode, vous allez découvrir par quels moyens la petite frappe de Leningrad a réussi à devenir l'arbitre des oligarques mafieux. Et comment, en une décennie, Poutine s'est mué en maître de la Russie.
Ici Moscou. Chers auditeurs, veuillez écouter la revue de la presse soviétique d'aujourd'hui.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Poutine, le tsar soviétique. Troisième épisode, le chat du Kremlin.
Président Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
Après la réunification allemande, en octobre 1990, le lieutenant-colonel Poutine, agent du KGB, a dû quitter précipitamment la RDA. Lui et sa famille ont donc regagné Leningrad en URSS. Un peu paumé, Poutine craint d'être condamné à une vie médiocre. Et à quelques jours de Noël, le 20 décembre 1990, rien ne s'arrange.
Bonsoir et merci d'avoir choisi Antenne 2. Voici tout de suite les principaux titres de cette édition. Coup de théâtre à Moscou. Édouard Chevardnadze démissionne. Le chef de la diplomatie soviétique craint l'arrivée d'une dictature.
Je veux faire une déclaration. Je donne ma démission. Ne réagissez pas, ne m'engueulez pas. Que ce soit ma contribution, ma protestation contre l'arrivée de la dictature, visiblement à bout de nerfs, trébuchant sur les mots, Édouard Chevardnadze annonce sa décision de quitter le gouvernement à un congrès stupéfait. En répétant qu'il est l'ami de Mikhail Gorbatchev, il conclut qu'il s'opposera de toutes ses forces aux réactionnaires et que jusqu'au bout il luttera pour les idées de la perestroïka, pour la démocratie, pour la liberté.
Gorbatchev condamne et se dit blessé par la décision de son ministre.
La démission d'Edouard Chevardnadze est un séisme. C'est le préambule à la chute de l'Empire soviétique. Poutine, qui a vu se lever le vent de la liberté en Allemagne de l'Est, en est particulièrement conscient. C'est le début de la faim. L'hiver arrive en Russie et en janvier 1991, Vladimir Poutine se ronge les sangs.
Alors c'est un Poutine, comme beaucoup d'officiers du KGB, il est colonel, qui se sent perdu, qui ne sait pas trop comment il va pouvoir rebondir, comment il va pouvoir faire vivre sa famille en fait. Hein, ses deux filles, sa femme, il faut qu'il travaille, mais où, comment exactement?
Andrei Kosovoy est historien.
Plus tard, il racontera, ce qui fera beaucoup rire les opposants, qu'il a même dû arrondir ses fins de mois en tant que conducteur de taxi, ce qui est un petit peu risible, on a du mal à le croire. Il va cependant très très vite trouver un point de chute à l'université de Leningrad auprès de son ancien professeur de droit, un certain Anatoly Sobchak. Anatoly Sobchak qui se cherche une équipe parce qu'il veut devenir le nouveau chef de Leningrad, devenir le maire de cette ville. Il était jusqu'ici à la tête du Soviet de Leningrad. Le Soviet, c'était une structure qui avait survécu à la révolution 1917, mais qui n'avait pas véritablement de pouvoir dans le système soviétique et qui, dans le contexte des réformes de Gorbatchev, commence à avoir plus d'autonomie. Et c'est ce Soviet de Leningrad qui va devenir la mairie de Saint-Pétersbourg au tournant des années 90-91. Et Poutine va devenir le premier adjoint de Anatoly Sobchak.
Anatoly Sobchak. Retenez bien ce nom, nous allons y revenir. Mais d'abord, auscultons le contexte économique et social de l'URSS en 1990.
Je vais vendre mon manteau, juste pour m'acheter du pain. Ça fait 3 mois que je n'ai pas reçu ma retraite.
Témoignage d'une moscovite. 1990.
Comment voulez-vous que je vive sans argent? Je suis bien obligée de vendre mon manteau. Je ne pensais pas en arriver là. C'est vrai qu'on a assez bien vécu sous Brejnev, mais depuis ça va de mal en pis. On ne verra plus rien de bien jusqu'à notre mort, hormis la pauvreté.
La situation économique et sociale dans le pays est très inquiétante.
L'historienne Françoise Dossé.
C'est-à-dire qu'on est dans une période de très grande désorganisation de la société et de l'économie soviétique. Les réformes gorbatchéviennes n'ont pas donné les résultats escomptés, c'est-à-dire qu'elles ont créé du chaos plutôt qu'elles n'ont permis une relance de l'économie russe. Et ces difficultés se traduisent notamment par des pénuries très importantes dans les magasins sont vides. Les citoyens soviétiques doivent faire la queue pendant des heures pour réussir à s'approvisionner. Les réseaux de transport dysfonctionnent, les récoltes ne peuvent pas être transportées faute de moyens de transport fonctionnant de manière correcte. Donc la situation de la société russe à la fin des années 1980 est très inquiétante.
Ils sont 10 milliers à survivre comme lui dans les gares de Moscou, 30 000 d'après la municipalité, plus de 100 000 d'après Médecins sans frontières qui vient d'obtenir l'autorisation de s'installer dans un ancien placard à balai de la gare de Koursk.
Reportage à Moscou, 1991.
3 nuits par semaine, les exclus de la Nouvelle Russie viennent ici faire panser leurs plaies et leurs bosses, et surtout, pendant quelques instants, avoir l'illusion qu'ils sont encore des êtres humains. J'habite ici, à la gare, depuis plus d'un an. Vous êtes de Moscou ? Non, je suis de Krasnodar, mais c'est pas la première fois que je vis à Moscou. J'ai fait mes études ici, à l'Institut de l'économie nationale. Maintenant, tous mes proches sont morts et moi, je suis invalide.
C'est déjà le moment d'une crise aiguë, une crise économique d'abord. Pratiquement tout est en déficit.
Françoise Thom est historienne.
L'inflation sévit déjà. L'inflation n'a pas commencé avec Boris Yeltsin. Déjà en 90, la situation était très difficile. Gorbatchev ne se décidait pas à faire les réformes radicales qui étaient préconisées par, notamment par Boris Yeltsin, mais aussi par des économistes libéraux. Et puis, la situation ne cesse de se dégrader. C'est-à-dire qu'on voit les choses disparaître dans les magasins, le savon, les allumettes, le sel, enfin, vous voyez, et puis l'inflation qui continuait. Donc, il y avait une forte demande de réforme. Et à l'époque, on pensait que le passage à la démocratie résoudrait comme, comme une baguette magique, résoudrait les problèmes qu'affrontait la Russie. En 90-91, on peut dire que la société russe se divise de plus en plus et il y a véritablement un climat qui est parfois un climat de quasi-guerre civile entre les différents groupes, les partisans du maintien du système soviétique et puis les réformateurs qui sont de plus en plus frustrés par Gorbatchev et Gorbatchev qui louvoient au milieu.
Vladimir Poutine, 30 décembre 1999. L'essentiel, peut-être, est que le pouvoir des soviets n'a pas rendu le pays prospère, ni placé la société dans une dynamique de développement, ni rendu l'homme libre. De plus, l'approche idéologique de l'économie a condamné notre pays à un retard constant sur les pays développés. Aussi amer que cela puisse être, nous avons évolué pendant près de 7 décennies sur une voie sans issue.
On imagine que le lieutenant-colonel Poutine, espion du KGB, avec la prestance de l'URSS en bandoulière, est extrêmement marqué, choqué et en colère devant le délitement de son pays.
Alors la colère vient des réformes gorbatchéviennes et de ces réformes manquées qui conduisent finalement plutôt à un affaiblissement du pays, à une dégradation des conditions de vie à l'intérieur du pays et un affaiblissement de l'Union soviétique sur la scène internationale puisque Gorbatchev essayait de promouvoir une nouvelle vision de l'Europe. Il appelait un projet de maison commune européenne qui ne se réalise pas.
L'historienne Françoise Dossé.
Vladimir Poutine assiste donc à l'effondrement du mur de Berlin, à la prise d'autonomie des républiques socialistes d'Europe centrale et orientale et donc à l'entrée de l'Allemagne d'abord dans l'OTAN, puis ensuite voilà, l'OTAN qui continue à s'élargir alors que le pacte de Varsovie a disparu. Donc un constat au fond de très grandes difficultés à la fois en politique intérieure et en politique internationale.
Encore une page d'histoire qui se tourne, histoire avec un grand H, naturellement. Le pacte de Varsovie va être dissous, est dissous.
Le pacte de Varsovie, c'était l'alliance militaire entre les pays du bloc de l'Est, un équivalent de l'OTAN, côté soviétique. Et la disparition du pacte de Varsovie, dissous en juillet 1991, a créé un fort sentiment de déséquilibre et de danger dans l'esprit des Russes. Le mois suivant, le pays est ébranlé.
Bonsoir, Gorbatchev destitué, l'histoire fait marche arrière en URSS. Un comité d'état d'urgence a pris le pouvoir ce matin à l'aube à Moscou. Il a instauré l'état d'urgence pour 6 mois. Officiellement, pourtant, selon le nouvel homme fort, Gennady Yanayev, Gorbatchev se repose quelque part en Crimée. Son principal opposant, Boris Yeltsin, appelle à la résistance et à la grève générale. Des chars ont fait leur apparition à Moscou, où en certains endroits, les soldats ont pactisé avec la population.
En août 1991, médusé, le monde assiste à la tentative de putsch contre Gorbatchev.
Les chars de l'armée soviétique sont entrés ce matin dans Moscou. Ils ont pris position sur les principales artères de la ville et jusque devant le Kremlin, ils ont investi les points stratégiques.
Les conservateurs communistes, autrement dit les partisans de l'ordre, veulent reprendre la main en destituant les réformateurs au pouvoir. Comment réagit alors Vladimir Poutine ?
Officiellement, il rend sa carte du parti et il aurait démissionné du KGB à cette période, même si on n'a pas d'éléments très concrets sur cette démission. Toujours est-il donc qu'il quitte formellement les structures du Parti communiste d'Union soviétique et son poste au KGB pour s'engager auprès du maire libéral de Saint-Pétersbourg, donc Anatoli Sobchak. Et donc on voit bien là se tisser cette double filiation, c'est-à-dire à la fois son passé d'officier du KGB et sa conversion au nouveau cours libéral qui s'installe dans le pays et auquel il se rallie en suivant Anatoli Sobchak à la mairie de Saint-Pétersbourg.
Vladimir Poutine, Juin 2000. J'étais en vacances, loin, en pleine cambrousse. Je suis rentré le 20 août, j'étais très inquiet. Il était clair que par leurs actions, les putschistes détruisaient le pays. En principe, leur mission était noble. Ils ont dû se dire qu'ils allaient sauver l'URSS de sa chute. Mais les moyens et les méthodes choisies n'ont fait que l'accélérer. Quand j'ai vu les putschistes à la télévision, j'ai tout de suite compris que c'était la fin.
En 3 jours, le putsch a échoué.
Sur le tarmac de l'aéroport, les officiels attendent celui qui, durant 3 jours, n'était plus rien, celui qui, à nouveau, dirige l'Union soviétique, Mikhail Gorbatchev.
Et très vite, Poutine comprend qu'il faut embrasser le courant libéral. Depuis quelques mois, il était devenu l'adjoint au recteur de l'Université de Leningrad. Une couverture alimentaire pour un officier du KGB. Et c'est là qu'il recroise son ancien professeur de droit. 53 ans, un réformateur, réputé démocrate et élu maire de la ville en 1990.
Quand Vladimir Poutine est venu me voir, c'était pour me dire qu'il avait quitté le KGB parce qu'il considérait que les Russes avaient trahi leurs agents secrets en Allemagne de l'Est au moment de la réunification. Ça m'a séduit et j'ai compris que lui ne trahirait jamais. Je l'ai donc pris dans mon équipe et en 12 mois de travail, il est devenu mon adjoint.
Anatoly Sobchak porte un programme de réforme très libéral et au fond en accord avec la politique que mènera ensuite Boris Yeltsin à la tête de la Fédération de Russie. Donc il fait le choix très rapidement de cette conversion au libéralisme, conversion qu'il n'est pas le seul évidemment à choisir, hein, puisque quand on regarde un petit peu la sociologie des nouvelles élites post-soviétiques, on se rend compte que la plupart d'entre elles en fait viennent des cercles dirigeants ou administratifs de la période soviétique. Donc ça a été très bien documenté dans quasiment tous les pays d'Europe centrale et orientale. Si on prend le cas de la Pologne par exemple, on voit aussi ce phénomène de conversion au programme réformateur et libéral de la part d'un certain nombre d'officiers, d'administrateurs de la période soviétique. Et donc, Vladimir Poutine va suivre cette trajectoire dans un premier temps.
Le fondateur du KGB a été déboulonné. Son piédestal en granit s'effrite sous les coups. Les moscovites s'acharnent à le faire disparaître au cri de « Liberté, liberté ».
En à peine 2 ans, de Dresde à Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine a assisté à la fin d'un monde.
Oui, une double fin du monde. D'abord à Dresde en 1989, puis il revient dans son pays et il voit même ce pays, c'est-à-dire le sol natal, s'écrouler.
Le philosophe Michel Elchaninov.
Donc en 1991, il assiste totalement impuissant à l'écroulement de ce à quoi il a donné toute sa vie, c'est-à-dire le patriotisme soviétique, c'est-à-dire ce qu'il considérait comme la plus forte des écoles des cadres, c'est-à-dire le KGB et le FSB, mais aussi un empire. Et ce que perd l'Union soviétique en 1991, c'est un empire immense, et il va vivre tout le reste de sa vie dans une forme de nostalgie, alors pas forcément de l'empire soviétique tel qu'il existait auparavant, mais d'une forme d'empire soviétique où Moscou n'était pas seulement la capitale de la Russie, mais également d'autres pays.
La conversion libérale de Vladimir Poutine en 1992 pose question. Certains biographes y voient avant tout un cynisme, une manière de rester dans le jeu pour en tirer profit. Et certains éléments abondent en ce sens. On peut sérieusement envisager que sous ce vernis, Poutine s'est vu au service de son ancienne corporation, humilié par le présent.
Le matin, il fallait que je sois au travail à 8 heures.
Andrei Lugovoy, ancien officier du KGB, devenu oligarque.
À 6 heures, je me levais et j'allais faire la queue pour aller chercher du lait. C'est la plus grande humiliation que j'ai jamais subie dans ma vie. Moi, un officier russe, avec une éducation supérieure, un très bon salaire à l'époque, et je devais faire la queue pendant 1 heure, au milieu de 200 personnes, et à la fin, on ne me remettait que 2 briques de lait. Et quand cette foule de marginaux s'est ruée sur les places de Moscou en criant « Vive Eltsine, vive la démocratie !», moi, ça ne m'a pas plu. Nous, on était prêts à donner notre vie pour la patrie. Et en 1992, tout s'est effondré. Et le corps des officiers, on l'a pris, on l'a jeté dans la merde.
À bas le KGB, à bas le KGB.
Alors après l'effondrement de l'URSS en 1991, l'appartenance au KGB de Vladimir Poutine devient une sorte de tache sur son CV à ce moment-là, quand l'URSS disparaît. Que choisit-il de faire Vladimir Poutine à ce moment-là ?
Alors oui, c'est peut-être une tâche, mais c'est aussi tout un réseau dont il hérite. Hein, il a des relations.
Françoise Thom.
Donc il est à Leningrad, qui va devenir Saint-Pétersbourg. Et il va profiter des relations qu'il a, à la fois par son séjour en Allemagne et aussi certainement le KGB, parce qu'évidemment on est toujours au KGB une fois qu'on y est entré. Et il va devenir l'adjoint du maire réformateur de Saint-Pétersbourg, et l'adjoint surtout pour les questions économiques. Et ce poste va lui servir de rampe de lancement, parce que grâce à ces relations à la fois au sein du KGB et notamment en Allemagne, hein, c'est important, et avec le milieu de la pègre, il y a une espèce d'osmose qui se développe entre justement ce milieu de la pègre et ces apparatchiks dégourdis qui commencent à monter et à construire des fortunes dans la jungle post-communiste. Et Poutine est de cela. Et il est dans une situation extrêmement stratégique, parce qu'il peut prélever évidemment des dessous de table. Tous les contrats passent par lui. Et donc, il commence à s'enrichir et à constituer un groupe autour de lui, un groupe d'amis de ses collègues du KGB et puis aussi d'autorités criminelles. Et ce groupe va être extrêmement solidaire, et c'est en grande partie les gens qu'il va amener avec lui en Moscou quand il montera à Moscou. C'est là, au fond, c'est la logique de bande qui prédomine. C'est sa bande et ce sont ces gens-là qu'on appelle la coopérative du lac, parce qu'il monte une coopérative pour construire des dachas somptueuses déjà. Autour de ce projet, il monte cette coopérative et permet à tous ses proches de s'enrichir, parce qu'il attribue ses contrats à des proches. Les fameux oligarques poutiniens, Wechselberg, Rothenberg, Kovalchuk, etc.
Avec son nouveau rôle dans cette Russie post-soviétique, Vladimir Poutine s'empresse de récompenser ses camarades de l'ancien monde et bâtit tout un clan autour de lui. Une autre question surgit. Derrière cette expérience libérale à la mairie de Saint-Pétersbourg, peut-on voir une école du crime ?
Oui, enfin, l'école du crime, je dirais, elle passe par plusieurs étapes. La première école du crime, c'est le KGB lui-même. Et ça, il faut en tenir compte. Hein. Poutine est un homme formé au KGB. Et c'est fondamental quand on veut comprendre ses méthodes et sa manière de voir les hommes. C'est un agent recruteur du KGB. Donc il voit les hommes comme une espèce de matière première qu'il faut manipuler, dont il faut tirer le maximum, qu'il faut intimider ou faire marcher droit. C'est vraiment la mentalité du KGB. Et puis ce KGB, dès l'époque de Brejnev, est déjà très criminalisé. Contrairement à la réputation qu'il avait, même certains dissidents s'imaginaient cela, comme Sakharov. On disait que le KGB était l'instance la moins corrompue de l'Union soviétique sous Brejnev. C'est faux, parce que l'osmose entre le milieu criminel et le KGB avait commencé sous Brejnev. Ça ne se fait pas du jour au lendemain.
Ça veut dire qu'il y a des liens anciens entre le KGB et la criminalité russe, soviétique.
Oui, il y a des liens anciens qui remontent même à Staline, puisque finalement, ce qu'on appelait les organes, le NKVD à l'époque, s'appuyait sur les réseaux criminels, par exemple, pour faire de l'ordre dans les goulags. Il y avait déjà une osmose à l'époque. À l'époque d'Andropov, Andropov voulait lutter contre la criminalité à sa manière. Et il avait donné l'ordre au KGB d'infiltrer les réseaux criminels. Donc forcément, il y avait des agents du KGB qui étaient infiltrés dans les organisations criminelles. Et au moment de la fin du communisme, ces gens-là se sont retrouvés pratiquement sans salaire, dans le désarroi de la fin du communisme. Et ils ont fait carrière au sein de ces organisations criminelles. On peut dire qu'ils avaient des savoir-faire complémentaires, les les truands et les officiers du KGB qui ont imposé cette coopération qu'on voit à la fin du communisme, au début des années 90, une coopération entre les Voriv Zakonye, comme on les appelait, les autorités criminelles et ces réseaux de hauts fonctionnaires soviétiques, pas seulement du KGB, mais même des hommes du parti. Mais c'est surtout vrai pour le KGB et le Komsomol.
Le Komsomol, c'était le nom soviétique des jeunesses communistes. Reprenons le fil. Pendant que Vladimir Poutine organise ses affaires à la mairie de Saint-Pétersbourg, à quoi ressemble la vie quotidienne en Russie durant ce difficile changement de système économique ?
C'est au pied du talus qu'ils attendent la vague, pour harponner dans cet océan d'ordures et de déchets une prise qui leur permettra peut-être ce soir tout au moins de manger à leur faim.
Reportage France 2.
Ce sont des retraités, des chômeurs, des femmes, des enfants.
1996.
Ils vivent tout en bas de l'échelle, les plus pauvres des pauvres. Même par moins 15 degrés comme ce matin, ils sont plusieurs centaines sur la plus grande décharge d'Europe, à une heure de train à l'est de Moscou.
Maintenant, je gagne 120 francs par mois. C'est ça ma retraite.
C'est pas beaucoup.
Bien sûr, c'est peu. Le pain va bientôt coûter 5 francs. Rien qu'un seul pain.
Désormais, près d'un tiers de la population russe vit sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 200 francs par mois.
Alors, durant cette expérience à la mairie de Leningrad, est-ce qu'on sait à quel niveau s'est enrichi Vladimir Poutine ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'enrichissement du futur maître du Kremlin ?
Oui, il y a même eu des enquêtes là-dessus, mais les auteurs de ces enquêtes ont mal fini. Hein, et donc, à vrai dire, on n'a pas de données précises, mais on sait qu'il s'est déjà constitué une fortune considérable à ce moment-là. Et puis surtout, il a mis au point les méthodes par lesquelles il s'enrichissait. Le racket de la protection, la corruption, les dessous de table, les contrats accordés aux copains, etc. Donc il a mis au point une technique de prédation et de contrôle. Surtout, ce qui est important, c'est qu'il a réussi à être l'arbitre de ces Voriv Zakonye, de ces autorités criminelles, donc à faire régner un certain ordre entre les grands oligarques. Et c'est ce à quoi aspiraient les oligarques à Moscou aussi. Ils voyaient que la lutte entre eux était fratricide. Depuis 1997, il y avait une lutte à mort entre les grands oligarques. Et ils souhaitaient avoir un arbitre, quelqu'un qui arrive à trancher dans leurs différends. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles ils ont choisi, ce sont les oligarques qui ont choisi Vladimir Poutine, qui l'ont recommandé à Boris Yeltsin, à cause de cet équilibre qu'il avait réussi à faire régner à Saint-Pétersbourg.
Le pays est en plein chaos. À Saint-Pétersbourg, dans les magasins, c'est la pénurie. Même le pain vient à manquer. Igor se souvient d'un Poutine hyperactif qui l'emmenait sur le port surveiller l'arrivée des cargos de céréales qu'il faisait venir de l'étranger.
À cette époque, il ne restait à Leningrad de quoi faire du pain que pour 3 jours. Et Poutine était très content de me montrer un navire britannique qui venait décharger du blé.
Alors le début des années 90, c'est un moment donc de grande libéralisation économique, mais qui facilite aussi les trafics de toute nature.
Françoise Dossé.
L'économie soviétique est très affaiblie, il faut importer des biens, il faut apprendre aussi les règles du marché. Et à la mairie de Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine est en charge des relations économiques extérieures, ce qui est un poste tout à fait stratégique pour cette grande ville, la deuxième capitale de la Russie, qui a toujours été considérée comme une fenêtre sur l'Europe, et depuis laquelle, en fait, un certain nombre d'entreprises, de commerces se développent, notamment autour du port de Saint-Pétersbourg, qui est aussi un lieu d'échange avec notamment tous les pays du nord de l'Europe, hein, de la Baltique. Et Vladimir Poutine, en fait, est en charge de ce développement économique extérieur, très favorable, en fait, à la fois aux échanges de biens et de services en tout genre, qui s'accompagnent souvent d'une rétribution en nature qui accompagne les transactions. Donc c'est une période où se développe très fortement la corruption dans un certain nombre de cercles dirigeants et économiques. Une période aussi où les inégalités sociales s'accroissent très fortement, hein, puisque c'est le moment des privatisations. Un certain nombre de biens hérités de l'État soviétique sont mis en vente, des entreprises, un certain nombre d'entités qui sont privatisées. Et ce moment de la privatisation est aussi une opportunité d'enrichissement très importante pour un certain nombre de cercles liés aux administrations et aux élites dirigeantes à l'époque.
L'année 1991 a vu l'Empire soviétique se démanteler.
Chers compatriotes et concitoyens,
il était 18h, heure de Paris, lorsque Gorbatchev a annoncé à la télévision soviétique qu'il mettait fin à ses fonctions de président de l'URSS.
En janvier 1992, l'URSS a donc cessé d'exister. Fin de la guerre froide. S'ensuit une transition démocratique. Mais sur quel modèle et qui s'emploie à la mettre en œuvre ?
Le programme, au fond, général de ce qu'on a appelé la transition démocratique et libérale a été conçu effectivement dans un cadre relativement internationalisé. C'est-à-dire que ces programmes de transition démocratique ont été pensés comme des solutions pour un certain nombre de pays sortant de l'autoritarisme. Et ce sont des programmes qui ont été d'abord élaborés dans un certain nombre de pays d'Amérique latine, qui ensuite ont été appliqués à l'Espagne et au Portugal dans les années 80. Et c'est ce programme de transition démocratique et libérale qui arrive effectivement en Russie au début des années 90, mais qui est approprié en fait par toute une équipe, notamment d'économistes, de jeunes réformateurs qui, au fond, adhèrent à ces programmes de transition et décident de les mettre en œuvre dans leur propre pays. Au fond, l'influence occidentale, elle s'arrête là, ce qui est déjà énorme en fait, hein, d'avoir conçu le dessin de cette transition. Mais ensuite, elle est aux mains d'un certain nombre d'acteurs qui sont à Moscou, donc autour de Boris Yeltsin, et puis qui sont dans l'ensemble du pays, tous ces acteurs qui vont mettre en œuvre ce programme, notamment de privatisation extrêmement ambitieux, qui avait pour objectif de faire passer la Russie de l'économie planifiée, étatique, à l'économie de marché en quelques mois ou quelques années. Au départ, le programme de privatisation prévoyait une privatisation relativement égalitaire par la distribution de bons distribués à l'ensemble de la population. Or, à cette période, la population russe ne comprend pas bien ces nouvelles règles du marché qui se mettent en place et la plupart des citoyens regardent ces bons de privatisation avec beaucoup de méfiance et s'en débarrassent au plus vite en les revendant aux premières banques en fait, qui font leur apparition et qui s'enrichissent à cette période grâce à la possession d'une partie de l'appareil productif soviétique.
Récapitulons. Au milieu des années 1990, l'URSS appartient au passé. À la tête de la Russie, Boris Yeltsin met en place une économie de marché, gangrénée par la corruption. Vladimir Poutine, lui, règne dans l'ombre du maire de Saint-Pétersbourg, où il s'enrichit de manière exponentielle. Dans ce monde sans foi ni loi, il navigue entre la pègre et un clan de fidèles. Poutine est un chef de bande devenu richissime. Et puis arrive l'été 1996. Vladimir Poutine quitte soudain Saint-Pétersbourg pour Moscou. Mais pour quelle raison ?
Alors il quitte sur un échec. Il avait été chargé d'organiser la campagne électorale du maire Anatoli Sobchak. Et puis le maire n'a pas été réélu, non seulement cela, mais il avait des affaires de corruption, justement, qui plombaient sa campagne.
Françoise Thom.
Et donc, Poutine s'est retrouvé avec cet échec, dont il a, à mon avis, tiré une leçon. C'est une immense méfiance à l'égard des mécanismes électoraux qui n'étaient pas prévisibles.
La démocratie n'est pas fiable.
La démocratie n'est pas fiable. C'est quelque chose qui n'est pas contrôlé. Et ça, il l'a vécu. Et puis ça a dû être un échec personnel très, très désagréable. Donc il a été repêché finalement par ses compagnons, par Tchoubaïs et d'autres pétersbourgeois qui l'ont propulsé à Moscou. Et là, il s'est très vite fait remarquer. Boris Yeltsin l'a remarqué d'abord par sa fidélité à l'égard d'Anatoli Sobchak, puisque c'est Poutine qui a organisé l'exfiltration de Sobchak pour échapper justement à la justice. Et ça, ça a beaucoup frappé Boris Yeltsin. Il s'est dit, c'est quelqu'un de fiable. Et comme lui-même était en difficulté, étant donné les enquêtes qui étaient menées contre sa famille et contre des oligarques proches de la famille, il cherchait justement un personnage de cette sorte sur lequel il puisse se reposer et qui lui assure l'impunité à l'avenir.
Retour au Kremlin pour le tsar Boris II après son couronnement. Boris Yeltsin a été réélu pour 4 ans à la présidence de la Russie avec une large avance sur son rival communiste, 53,5% des voix contre 40,5% des voix, 6% des électeurs russes ayant signifié qu'il ne voulait ni de l'un ni de l'autre.
Boris Yeltsin est donc réélu par le peuple russe en juillet 1996.
Избран Борис Николаевич Ельцин.
Cependant, il est cerné par les règlements de compte et les affaires de corruption. Il va avoir besoin d'un homme de confiance. Nous allons y revenir. Notons d'abord que durant cette décennie 1990, Poutine vit désormais dans un monde démocratique. En Russie, pour la première fois de son histoire, on élit librement les maires, les députés et le président. Quel rapport entretient Vladimir Poutine avec le régime démocratique ?
Il s'exprime assez peu là-dessus. Dans ses mémoires, dans les mémoires autorisées qu'il a laissées, notamment le livre à la première personne, le résultat d'une discussion avec des journalistes au moment où il arrive au pouvoir en 2000.
Michel Elchaninov.
Dans les interviews avec Oliver Stone qu'il a pu faire, etc. Il s'exprime au fond assez peu sur cette question. Je crois que lui s'est toujours vu comme un continuateur de l'État russe. Il raconte que dans son bureau à la mairie de Saint-Pétersbourg, il avait une peinture représentant le tsar réformateur Pierre Ier, Pierre le Grand, le grand tsar qui a fait construire Saint-Pétersbourg. Mais pour lui, Pierre le Grand, c'est surtout un homme d'État. C'est moins peut-être le tsar qui a ouvert la Russie sur l'Occident que celui qui a réaffirmé la volonté de l'État, qui a réformé l'administration et qui a véritablement normalisé une Russie où il y avait encore des velléités d'autonomie locale à droite à gauche. Donc Vladimir Poutine, il a, disons, défendu la démocratie sur le mode de la continuation et de la puissance de l'État. Et c'est ce qui va faire aussi son succès dans les premières années de ses premiers mandats.
Il ne faut pas diviser le pays entre vainqueurs et vaincus.
Boris Yeltsin, 1996.
Travaillons ensemble parce que nous n'avons qu'une seule Russie, un immense pays, une même Russie et un même destin.
En 1996, Boris Yeltsin est réélu lui aussi avec 52% des voix. Quelle image a alors à ce moment-là dans la société russe Boris Yeltsin ?
Boris Yeltsin a l'image d'un réformateur encore.
Françoise Thom.
Mais il est très fortement contesté et de plus en plus par une vague de communistes et de patriotes qui contrôlent pratiquement la Douma. Et Boris Yeltsin est très violemment attaqué par ces gens-là. Alors, pour se faire élire, il a été obligé de passer une espèce d'accord avec les oligarques. Ce sont les oligarques et les occidentaux, d'ailleurs, qui ont financé sa campagne électorale. Et une fois que Boris Yeltsin a été réélu, d'abord, il avait des problèmes de santé graves, il a eu des infarctus. Enfin, il est tombé malade pendant la campagne électorale. Il a dû se faire opérer. Et donc, une fois qu'il est réélu, eh bien, il laisse plus ou moins les affaires aux mains des oligarques auxquels il doit sa réélection, aux mains de Tchoubaïs, justement, qui a organisé sa campagne électorale avec sa fille. Et c'est à partir de là que les oligarques commencent à se déchirer entre eux. Et ils étaient unis pour faire passer Boris Yeltsin, mais ils commencent à se déchirer entre eux pour se partager, on peut dire, le butin, parce qu'il y avait encore des secteurs de l'économie à contrôler qui n'étaient pas encore privatisés, et Boris Yeltsin leur avait promis tout cela en échange de leur soutien. Donc, ils vont être en rivalité pour le partage du butin. Ça va donner une guerre à mort où chacun va discréditer l'autre. Boris Yeltsin va être discrédité, mais tous les oligarques qui le soutiennent sont à la tête de médias qui sont à couteau tiré également entre eux, des différentes chaînes de télévision, et qui se servent de ces médias pour lancer ce qu'on appelle en russe du kompromat, c'est-à-dire des dossiers compromettant sur les rivaux, si bien que tout le système a été discrédité. Et la démocratie elle-même a été discréditée complètement aux yeux de la population russe. D'où le désir de remettre de l'ordre, hein, de raffermir l'État. On a l'impression que l'État ne résiste plus à tous ces prédateurs qui bourdonnent autour de lui. Et on veut une poigne, on commence à rêver d'une main ferme pour rétablir l'État. Et c'est là-dessus que va surfer Vladimir Poutine.
On cherche donc une poigne, un homme fort, capable d'arbitrer la lutte à mort entre les oligarques russes. Dans l'entourage proche de Boris Yeltsin, un fidèle parmi les fidèles va jouer un rôle fondamental dans le destin de Vladimir Poutine. Il s'appelle Pavel Borodin, un compagnon de bouteille de Boris Yeltsin, ça compte, et par ailleurs, surintendant du Kremlin.
Il s'occupait justement, il était chargé des aspects matériels des dignitaires du pouvoir russe. Et c'est pour ça que son poste était crucial pour Poutine, parce que ça lui a permis de constituer des dossiers sur les grands du régime, des dossiers compromettants. Donc c'était un poste stratégique qui lui a servi ensuite de tremplin. Il a été placé à la tête du FSB en 98, au moment où le régime est en pleine crise, hein, où la Russie n'arrive plus à assurer ses paiements, elle est en banqueroute, donc le régime est complètement discrédité. Et Boris Yeltsin est obligé de faire appel à Primakov, qui est un outsider, qui ne fait pas partie de sa bande. Hein. Et donc, il prend comme précaution, il rééquilibre en nommant quelqu'un sur lequel il sait qu'il va pouvoir compter, Vladimir Poutine, à la tête du FSB. C'était un atout qu'il se donnait contre Primakov.
Le FSB étant le successeur du KGB, donc voilà. Les services secrets russes dans les années 90.
France 2, août 1999.
Je vous le disais en titre, la Russie a un nouveau Premier ministre depuis ce matin. Fidèle à son habitude, Boris Yeltsin a surpris tout le monde en limogeant Sergueï Stepatchine, qu'il avait lui-même nommé il y a moins de 3 mois. Pour le remplacer, il a fait appel à un homme du Sérail, le chef des services secrets, Vladimir Poutine. Poutine, que Boris Yeltsin a d'ores et déjà désigné comme son dauphin, prend les rênes au moment où éclate la crise au Daghestan.
C'est ainsi que le 9 août 1999, pour le remercier de l'avoir débarrassé du procureur Skouratov, Boris Yeltsin nomme Poutine Premier ministre. Une ascension fulgurante. À l'époque, personne ne connaît cet homme qui est entré au Kremlin par la porte de derrière, tel un chat par la chatière.
Quand Boris Yeltsin annonce qu'il va en faire son Premier ministre, les gens tombent des nues parce que c'était, il passait pour un personnage complètement terne. Et tout le monde a pensé que c'était un personnage, un intérimaire, en attendant d'un vrai successeur. Ça n'était pas le cas, justement. Boris Yeltsin avait les yeux sur lui depuis longtemps, d'ailleurs. Et il le faisait monter petit à petit et il s'assurait, justement, que Poutine était à la hauteur de ce qu'il projetait pour lui. Et ensuite, la carrière de Poutine a été fulgurante grâce à la guerre contre la Tchétchénie, qui à l'origine était certainement orchestrée par les oligarques qui voulaient propulser Poutine, Berezovsky notamment, qui avait des relations dans les milieux tchétchènes. Donc les Tchétchènes ont lancé une offensive au Daghestan. Donc il a fallu repousser cette offensive et cette affaire s'est achevée en guerre contre la Tchétchénie, ce qui n'était pas évidemment l'intention de Berezovsky. Il voulait simplement organiser une escarmouche qui propulse Poutine. Mais sur ces entrefaites, vous avez les attentats dans trois villes de Russie qui font 300 morts.
Les habitants de Moscou, capitale de la Russie, sont en train d'apprendre à vivre avec une nouvelle réalité terrible et menaçante, le terrorisme.
France Inter, 13 septembre 1999.
Ce matin, vers 5h, une bombe de 300 kilos de TNT a totalement ravagé un immeuble du centre-ville, immeuble dans lequel vivaient 120 personnes. Le bilan tout à fait provisoire évoque le nombre de 34 victimes. Je vous rappelle tout de même que la semaine dernière, un autre attentat avait fait toujours à Moscou 96 morts.
À l'automne 1999, Poutine comprend très vite l'opportunité pour lui d'une nouvelle guerre en Tchétchénie.
Les attentats sont attribués aux Tchétchènes, mais dans un des cas, justement, le FSB a été pris la main dans le sac, au sens propre du terme, en train d'installer les explosifs. Donc c'était extrêmement douteux et c'était une opération permettant à Poutine de retourner l'opinion publique pour lancer une véritable guerre contre la Tchétchénie. Et il va donc se propulser en tant que chef de guerre et renverser l'opinion russe qui, lors de la première guerre de Tchétchénie, était extrêmement réticente et critiquait les brutalités de l'armée russe. Cette guerre était extrêmement impopulaire, la première guerre qui s'est déroulée en 95-96. Mais grâce à ces attentats terroristes, Poutine a renversé l'état d'esprit de la population. Et là, il avait en bloc derrière lui tous les citoyens, presque tous les citoyens russes. Et c'était une opération absolument brillante, qu'il faut dire. Il a réussi à monter dans les sondages alors qu'il n'était rien du tout et finalement créer son parti et gagner les élections.
Avec les attentats, pour la première fois, Poutine a pu se présenter au pays comme un homme fort, ferme.
La journaliste russe Anna Politkovskaya
et les chargés de communication du Kremlin nous ont même expliqué que c'était un projet spécial. Poutine le fort, sur fond d'attentats tragiques et de centaines de morts. Car selon eux, la population russe voulait un nouveau Staline, une main ferme. Il n'y avait donc pas de moment plus approprié que cette vague d'attentats sanglants à travers le pays pour démontrer que Vladimir Poutine était cet homme-là, l'incarnation du dirigeant inflexible. Les explosions ont joué un rôle fondamental dans son arrivée au pouvoir.
Pour bien comprendre, François Stomme, il est nommé le 9 août 1999 comme Premier ministre par Boris Yeltsin. En effet, il est inconnu, donc impopulaire, donc on se pose des questions. Et il va transformer son poste en chef de guerre pour souder derrière lui la société russe.
Exactement, grâce à ces attentats, ces fameux attentats qui sont extrêmement importants à mon avis, parce que ça montre qu'on entre dans une autre époque, déjà. La réélection de Boris Yeltsin en 96 était déjà une vaste manipulation. Mais là, on est quand même dans une manipulation qui coûte la vie à 300 personnes. C'est tout autre chose. Et puis une guerre, en plus, une guerre qui va être impitoyable, qui annonce ce que nous voyons aujourd'hui en Ukraine. une guerre impitoyable. Donc là, on sent que l'ère Yeltsin est finie.
L'ère Yeltsin est d'autant plus finie que Vladimir Poutine impose un autre style à la tête du gouvernement russe. Notamment, il emploie des mots particuliers. Il y a un vocabulaire de la pègre qui va rentrer.
Il annonce qu'il va buter les Tchétchènes dans les chiottes.
Nous poursuivrons les terroristes partout. À l'aéroport, s'ils sont à l'aéroport. Et excusez-moi, s'ils sont aux toilettes, on ira les buter dans les chiottes.
Et c'était justement une formule qui lui a valu une immense popularité. Je me rappelle qu'en décembre 99, il se rend en Tchétchénie et il offre des poignards pour Noël. Il offre des poignards aux troupes luttant contre les Tchétchènes. C'était un tout autre style que le style de Boris Yeltsin. Et on sent tout de suite une main de fer, une véritable main de fer. Et on sent que c'est quelqu'un qui ne reculera devant rien. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Boris Yeltsin. Il l'a dit, semble-t-il, en voilà un qui ne reculera devant rien. C'est donc bien pour ces qualités-là qu'il l'a choisi. Boris Yeltsin est véritablement responsable de ce choix. Il savait qui était Poutine et il l'a propulsé malgré ce qu'il pouvait savoir de lui.
Bonjour, personne ne s'y attendait, en tout cas pas si vite. Boris Yeltsin n'est plus aujourd'hui président de Russie. Il a démissionné ce matin.
Chers
Russes,
aujourd'hui je m'adresse à vous pour la dernière fois en tant que président de la Russie. J'ai pris ma décision, j'y ai réfléchi longuement et douloureusement. Aujourd'hui, dernier jour de ce siècle, je démissionne.
C'est Vladimir Poutine, le Premier ministre, qui assure l'intérim de la présidence russe. Il a désormais la clé de la valise nucléaire.
France Inter.
Et alors, Françoise Thom, le 31 décembre 1999, dans la matinée, Boris Yeltsin va donc démissionner à la télévision russe en proposant Vladimir Poutine pour assurer l'intérim de son poste jusqu'aux prochaines élections. Un mot d'abord sur ce moment un peu particulier, un peu kitsch, un peu irréel. C'était un peu étrange ce Boris Yeltsin à la télévision qui vient dire qu'il s'en va et qu'il s'excuse d'ailleurs auprès des Russes du rêve gâché, en gros. Quel moment étrange, n'est-ce pas, quand même, dans cette fin de siècle en ex-Union soviétique.
Oui, et puis quand on pense que la préoccupation principale de Boris Yeltsin, c'était d'assurer l'impunité à sa famille, donc c'est pas le souci du bien public qui l'a poussé à démissionner, c'est bien la crainte des ennuis qui s'accumulaient sur la tête de ses proches. C'est ça qui a déterminé cette décision.
En conclusion de ce troisième épisode, retenez qu'en 1999, Boris Yeltsin, corrompu jusqu'à l'os et confit dans la vodka, démissionne pour protéger sa famille. Il confie la Russie à cet homme étrange et vorace,
Vladimir Vladimirovich Poutine,
qui lui aussi s'adresse au peuple russe le dernier jour du XXe siècle.
Vladimir Poutine, 31 décembre 1999. Chers amis, aujourd'hui, dans la nuit du Nouvel An, je m'apprêtais, comme vous, avec ma famille et mes amis, à écouter les paroles de salutation du président de la Russie, M. Boris Yeltsin. Les choses se sont passées autrement. Aujourd'hui, le 31 décembre 1999, le président de la Russie a décidé de démissionner. Il m'a demandé de m'adresser au pays.
Quelques semaines plus tard, Vladimir Poutine sera élu président de la Russie. Un mandat viriliste et sournois. C'est l'horizon du prochain épisode. Poutine, le tsar soviétique. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Lecture Nicolas Lormeau, de la Comédie-Française. Équipe éditoriale, Aude Cordonnier, Irène Menahem. Documentation sonore, Frédéric Martin. Mixage, Benjamin Orgeret. Prochain épisode, La danse de l'ours. Poutine, le tsar soviétique, est un podcast original de France Inter.